toutes et à tous, bienvenue sur Concrètement. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Pascal. Bonjour Pascal.
Bonjour Stanislas.
Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler d'une bonne nouveauté, de quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre dans la presse papier et la presse électronique. C'est Windows Subsystem for Linux.
Exactement, Windows Subsystem for Linux. Et donc, Stanislas ?
Eh ben en fait, c'est un travail en collaboration, et ça c'est relativement disruptif, je pourrais dire, dans l'industrie aujourd'hui. Donc c'est un travail autour de Windows 10 avec entre Microsoft et Canonical. Rappelle-moi qui est Canonical, Pascal ?
Canonical, le célèbre éditeur de Ubuntu, et la célèbre distribution Linux gratuite.
Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'ils ont apporté
à Windows
10 ?
Concrètement, ce qu'ils nous ont apporté à Windows 10, et bien c'est ce qu'on va voir bientôt en démonstration, c'est ceci.
Mais encore ?
Alors, ça te la coupe, hein ? Alors, ceci, c'est quoi ? Bien, en fait, c'est Bash. Et Bash, c'est quoi ? C'est l'interpréteur de commande, la ligne de commande. C'est ce qu'on appelle un shell dans le monde de Linux, mais pas uniquement, dans le monde en général des systèmes d'exploitation, voilà. C'est un shell, une ligne de commande qui nous permet de taper des commandes, d'interagir avec le système, de lancer des applications, de lancer des scripts, de programmer des scripts, effectivement. Et donc Bash donc, arrive dans Windows. Alors qu'est-ce que c'est que ce Bash ? C'est un, donc comme on l'a dit, c'est un shell, un interpréteur de commande. Hein. Bash, ça veut dire born again shell.
Rien à voir avec JSON.
Exactement.
JSON born again
born
shell.
Again, ouais. Et donc successeur des célèbres KSH, CSH et compagnie. Donc ce qui est intéressant, c'est que, comme son nom l'indique, hein, c'est Windows Subsystem for Linux, c'est-à-dire que c'est un sous-système Windows pour Linux. C'est quoi un sous-système ? C'est comme Win32. Win32 dans Windows, c'est un sous-système qui reçoit des appels Win32, qui les exécute et qui les transforme en appel du noyau Windows.
Le noyau Windows qui est un micro-noyau, hein, à l'origine c'était NT, ce qui nous permet de remonter un petit peu dans le temps entre une célèbre discussion, bagarre, entre Linus Torvald et Andrew Tannenbaum. Alors Andrew Tannenbaum, que tu connais certainement, qui était le créateur d'une sorte d'Unix qui s'appelait Minix, qui était basé en fait sur son approche à un noyau monolithique. Et Andrew Tannenbaum est très réputé pour avoir écrit deux livres de référence dans le monde de l'informatique, un sur les architectures des systèmes d'exploitation et l'autre sur les réseaux, des gros pavés qui sont vraiment des références, entre guillemets, enfin, ou qu'il était à l'époque. Et donc Linus Torvald, lui, a pris une approche, elle, monolithique et non pas micro-noyau sur son Linux. Et ça a créé en fait une sorte de bagarre à l'époque entre les deux protagonistes. On sait finalement aujourd'hui que Linux est resté dans sa décision, Linus Torvald, de faire un noyau monolithique, donc assez gros, incluant des drivers, etc. Et que nous, on est parti du côté de NT sur le micro-noyau avec ses fameux subsystèmes.
Voilà. Et donc là, on se retrouve avec un subsystème spécial pour Linux qui répond donc au même spec auquel répond le noyau Linux vis-à-vis des applications. L'avantage, c'est que ben, au niveau performance, on aura exactement les mêmes performances qu'une application Windows native qui fait du Win32, puisqu'on ne transforme pas les appels Linux en appels Win32. On les traduit directement en appels kernel Windows. Alors c'est pas quelque chose de nouveau, hein. On avait ça il y a quelques années avec un sous-système qui s'appelait POSIX dans Windows et qui permettait d'exécuter déjà KSH, CSH, donc des shells classiques Unix et des suites d'outils Unix donc qui s'exécutaient de la même façon directement sur Windows.
Peut-être donc, précisons que le contexte était différent à l'époque.
Tout à fait.
À l'époque déjà on parlait de choses POSIX, donc c'était très formaté, et à l'époque on avait différentes versions d'Unix, je précise bien, qui vraiment du coup n'implémentaient pas exactement les mêmes shells, les mêmes commandes, etc. Donc finalement c'était pas trop utilisé. C'était plus utilisé faire des modes de compatibilité entre guillemets. Et depuis, en fait, pourquoi on va mettre du Bash ? La raison principale aujourd'hui, dans un premier temps en tout cas, bah, c'est les développeurs.
Tout à fait.
Parce qu'on s'est aperçu que bah, les développeurs, aujourd'hui principalement dans le monde du web, utilisent beaucoup du Bash et des outils qui sont fournis en fait sur les plateformes Linux, bah, simplement parce que le web quand même contient beaucoup de serveurs sur base LAMP ou autre, et qu'effectivement, du coup, les outils sont venus avec. On couple ça avec la démocratisation des Mac dans les écoles, les universités américaines par exemple, et le fait qu'effectivement le Mac est basé sur, enfin le Mac d'aujourd'hui entre guillemets, le système d'exploitation est basé historiquement sur FreeBSD, donc ça veut dire que Bash en fait existe également sur plateforme Mac, et du coup en fait ça fait que le Mac est un outil de développeur qui est au-delà d'être entre guillemets cool, et intègre également les outils compatibles Linux qui vont bien avec. Donc du coup il y a tout un écosystème d'outils qui se sont créés, qui du coup n'est pas forcément disponible pour ces développeurs, on va dire web ou moderne ou de zéro, sur plateforme Microsoft.
Donc Canonical a fait un gros travail pour intégrer tout ça dans une forme qui va s'installer sur Windows. Mm-hmm. Donc ils ont packagé le shell lui-même, plus un certain nombre d'outils, un gros certain nombre d'ailleurs d'outils natifs à Ubuntu, C'est ce qu'on appelle en fait le user land, le user space, je ne sais plus le terme exact dans le monde Linux, mais le mode d'utilisateur en fait d'Ubuntu qui va se retrouver directement sur Windows.
C'est très important cette partie-là, c'est que
exactement.
On n'est pas en train de parler d'une machine virtuelle Ubuntu qui est en train de tourner en fait sur un système Windows, mais on est en train de parler juste d'un sous-système utilisateur et non pas kernel. Ça veut dire que toute application Linux fonctionnant avec des appels kernel, donc un peu bas niveau, je sais pas, on va prendre un exemple, un Wireshark par exemple qui irait taper très très bas dans les couches pour le réseau.
Ça ne pourrait pas marcher.
C'est pas fait pour en fait, c'est pas l'objectif.
Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que les exécutables binaires d'Ubuntu, de Linux, donc c'est des exécutables au format ELF, vont fonctionner nativement dans le bash, ce qui est un bash.exe en fait, qui est lui pour le coup, est un exécutable Windows. Lui, il va directement exécuter ses exécutables ELF. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec apt-get, par exemple, avec le système apt de package d'Ubuntu, on va pouvoir récupérer n'importe quel des packages, des milliers ou dizaines de milliers de packages qui existent dans les repositories Ubuntu, les descendre avec apt-get install, par exemple, et les exécuter dans notre Windows, sous réserve, effectivement, qu'ils ne soient pas trop de bas niveau, comme tu le disais à l'instant.
Écoute, Pascal, si on regardait ça concrètement, en démonstration.
Tout à fait. Donc, concrètement.
La première question que je vais te poser, c'est quels sont les prérequis pour pouvoir installer et tester ce sous-système pour Linux ?
Alors, il y a deux choses. Première chose, aller dans les mises à jour, dans le paramétrage des mises à jour de Windows, dans les options avancées, et puis passer dans le mode dit insider, c'est-à-dire. Mettre son Windows dans la position de recevoir les builds insider, les builds bêta, entre guillemets, hein, pour faire simple, de Windows 10. Si possible, mettez-vous dans le mode rapide, donc en bas ici sur mon écran, complètement à droite ici, pour avoir les builds le plus rapidement possible. Le but du jeu, hein, c'est déjà de récupérer la dernière qui est la build. Alors j'ai la build ici 14.316, donc qui est sortie récemment. Donc récemment, on est mi-avril, donc voilà. Première moitié d'avril 2016. Et ne vous étonnez pas si en passant dans le mode insider, ça prend 1 à 2 jours pour récupérer cette première build insider pour pouvoir être à même de tester cette fonctionnalité.
Voire parfois 3. À noter, si vous voulez passer rapidement sur une build insider et que vous avez un abonnement MSDN, vous pouvez aller directement télécharger l'ISO de la version insider directement sur MSDN et donc installer une version insider. Dans mon cas, pour l'avoir testé, j'ai installé l'ISO du mois de mars, qui était la 14.295. Et ensuite, effectivement, je me suis mis dans les modes que tu viens de nous expliquer et j'ai attendu 48 heures. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai eu la mise à jour jusqu'à la release qui nous intéresse.
Deuxième chose, il faut aller dans les paramètres pour les développeurs et passer en mode développeur. C'est une condition également pour pouvoir exécuter ça. C'est clairement, cette fonctionnalité-là est clairement ciblée sur les développeurs, dédiée aux développeurs. Elle a été annoncée à la build, c'est pas un hasard, c'est une conférence purement développeur. Donc nos amis développeurs vont être intéressés par ça, et je vais vous montrer pourquoi juste après. Une fois qu'on a fait ça, ben on peut aller dans le panneau de configuration de Windows, donc l'ancien panneau de configuration, hein, ancien entre guillemets, puisque c'est à cet endroit qu'on va trouver la fonction qui permet d'activer ou désactiver une fonctionnalité Windows. Donc c'est cette fenêtre bien connue qui nous permet de sélectionner des fonctions optionnel de Windows. Et tout en bas, en dessous, on retrouve cette fonction qui s'appelle le Windows Subsystem for Linux Beta, donc qui n'a pas été encore traduite malgré la version française de mon Windows ici. Donc, ce qui montre bien que c'est vraiment une version préliminaire.
Précisons que cette version se met à jour comme tout composant de Windows avec des updates. Par exemple, récemment, moi j'ai reçu une mise à jour, j'avais ce sous-système pour Linux, et j'ai reçu une petite mise à jour, en fait, donc un correctif de Microsoft, hein, parmi Windows Update, qui m'a mis à jour ce subsystème.
Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, il y a un reboot, évidemment, pour activer la fonctionnalité, le téléchargement. Alors là, oui, le téléchargement, pardon. Vous allez pouvoir lancer Bash, ce fameux bash.exe. Si vous ne le trouvez pas, vous faites simplement la touche Windows et vous tapez Bash, et là vous allez le trouver, et de là, vous pouvez ensuite l'épingler soit sur votre écran de démarrage, soit sur votre barre des tâches, en fonction de vos habitudes. La première fois que vous allez le lancer, il va vous demander d'accepter le téléchargement de l'ensemble des outils Ubuntu. Donc là, ça va prendre un certain temps en fonction de votre bande passante. Chez moi, ça a pris un temps certain.
C'est téléchargé depuis le Windows Store, si je ne dis pas de bêtises.
Exactement. Et c'est là que les gens de Canonical ont packagé la chose pour que ce soit compatible avec le Windows Store. Tout à fait.
Donc là, on se retrouve sur un interpréteur de ligne de commande en Bash, quoi, voilà. Avec la petite icône Ubuntu. Alors du coup, on peut faire quoi avec ça ?
Donc c'est quelque chose que connaissent bien tous les développeurs qui travaillent soit sur un Mac, soit sur un Linux. En Windows, nativement, on a ça. On a un CMD. CMD, c'est l'interpréteur historique de Windows, hein, c'est l'héritier du command.com de DOS.
Exactement.
Et là-dedans, ben, on n'a pas toutes les commandes dont les gens qui connaissent bien le Mac ou Linux ont l'habitude. Par exemple, tu veux faire less pour afficher un fichier, pas de less. Tu veux faire tail pour afficher la fin d'un fichier qui est un petit peu long, pas de tail. Donc il y a toutes ces petites commandes-là auxquelles les gens ont l'habitude sur d'autres systèmes, ben, ils ne les retrouvent pas, ils ne trouvent pas leurs petits sous Windows, donc ils sont un petit peu embêtés. Donc là, on va trouver toutes ces commandes-là. Par exemple, prenons un autre exemple, wget pour aller récupérer un fichier, je vais pouvoir le faire.
Un classique. Alors, comment on fait pour vérifier sur quelle version d'Ubuntu on est ? Parce que Ubuntu évolue. Alors, également, le système doit évoluer, je pense.
Comme sous Ubuntu, on a la commande lsb release -a.
Mm-hmm.
Commande qu'on trouve dans la plupart des Linux et qui nous affiche la version de la distribution de Linux qu'on utilise avec son nom de code, etc. Donc là, on voit qu'on est en Ubuntu 14.04 LTS, donc la dernière version stable à ce jour.
Long term support, effectivement.
Et que c'est bien le codename Trusty de cette version. Étant donné que là, on est en avril, quand vous regarderez cette vidéo, vous serez probablement en mai. La version 16.04 LTS sera sortie de Ubuntu. On mettra à jour en même temps la version de ce bash pour Windows avec cette version 16.04.
Super. Qu'est-ce que tu nous proposes d'autre ? Parce que ça parle de développeur, mais
alors,
du coup,
pensons
que
va faire développeur.
Pensons voilà. Développeur.
Le scénario classique du développeur. Par exemple, le développeur qui veut faire du Ruby parce qu'il est en train de développer un petit site web basé sur des modèles de sites qui existent avec Ruby. apt-get install. apt-get install, et puis on va installer par exemple Ruby 2.0 avec ses entêtes de développement, donc Ruby 2.0-dev. Avec ceci, on va pouvoir avoir accès directement à tout ce qui est Ruby 2.0, donc la dernière version, et les entêtes et tout ce qu'il faut pour développer. Tu te doutes bien que j'ai déjà fait la manip juste avant, donc
il va pas les retélécharger,
il va pas retélécharger.
Bon. D'accord.
Une fois qu'on a Ruby installé, on peut, avec la commande gem, installer des packages qui utilisent Ruby. Par exemple, petit site web qui sert à faire des blogs de façon très élémentaire, très basique, mais vraiment le système de blog de base, qui s'appelle Jekyll. Donc j'utilise gem pour installer ce fameux package Jekyll. Gem 2.0 install Jekyll.
On est vraiment dans de la commande pure Linux. On est vraiment sorti du monde,
exactement,
entre guillemets, Microsoft. Rappelons aussi que nos outils maintenant sont très cross-platform, nos outils de développement. Donc ça veut dire qu'effectivement tous les IDE qu'on propose, et plus notre plateforme dans le cloud qui est Azure, est relativement agnostique, quelles que soient les technologies, ce qui explique effectivement que la petite pierre qui manquait pour faire un ensemble complètement cohérent était d'avoir en fait l'interpréteur côté post-client pour avoir la même expérience que peuvent avoir les développeurs qui font des applications dans le cloud, mais quels que soient les langages, mais sur leur Mac aujourd'hui.
Exactement, donc même principe que tout à l'heure, le package je l'avais déjà installé, donc il n'a rien fait, il a juste vérifié que c'était bien installé. Et une fois que donc j'ai mon package Jekyll, je peux l'exécuter, donc là je vais, hop, sans faire de faute de frappe, Jekyll, je crée un nouveau site, donc New Toto, un nouveau site Jekyll. Hop, il m'a fait mon répertoire Toto. Si je vais dans Toto, je peux vérifier qu'il m'a bien créé ma structure de blog Jekyll. Et à partir de là, je peux faire Jekyll.
Et Mr. Hyde.
Serve.
Pardon.
Jekyll serve, et j'ai mon site de blog qui utilise Ruby.
D'accord.
Grâce à Jekyll, qui s'exécute. Il me dit voilà l'URL. Donc je peux prendre cette URL ici.
D'accord.
Hop, non. Que je clique bien à droite, voilà. Et j'exécute cette URL. Et j'ai mon site Jekyll qui s'exécute.
Génial. Et là, on n'a pas de container, on n'a pas de machine virtuelle, on n'a rien
de virtuel.
On a une application native
Ruby.
Ruby, donc format ELF, qui tourne sous le sous-système Ubuntu. Et donc on a ici un, donc ça tourne en mode user, donc c'est vraiment pour du dev, hein, c'est pas de la prod effectivement de serveur derrière.
Oui, bien sûr,
hein,
bien sûr.
Tout à fait.
Bien sûr, mais c'est pour montrer que les développeurs retrouvent leur petit, quel que soit leur framework de développement. Là, en l'occurrence, c'est Ruby. On pourrait aller élaborer, mettre du Ruby on Rails et ce genre de choses-là, ça fonctionnerait tout à fait.
Du coup, là j'ai, enfin, tu as commencé à faire un LL, tu as pu faire un LS. Si tu fais un PWD, du coup, qu'est-ce que tu dois apparaître comme structure?
Ah, donc effectivement, je suis dans /root/toto parce que à l'intérieur de ce shell qui s'exécute non pas en mode administrateur, mais en mode user normal, qui est mon utilisateur Windows, je suis considéré comme root à l'intérieur de cet environnement-là.
D'accord.
Je ne suis pas administrateur de la machine, mais je suis root dans le bash.
Par contre, on a une structure classique, /mnt, /quelque chose, qu'on peut
effectivement,
voir sur Linux.
Si je vais dans la racine, je vois qu'il y a un mnt, et dans mnt, qu'est-ce que je trouve? Il y a un petit c. Et qu'est-ce que c'est que ce C? Ben c'est le C, ça représente le C de Windows, en fait, du PC sur lequel je suis.
Du sous-système NTFS sous-jacent.
Par exemple, je peux aller dans Windows. D'accord, il faut que je tape bien CD Windows. Et là, dans ce répertoire donc, qui est /mnt/c/Windows, je vois les fichiers de Windows. Donc je vois, par exemple, je sais pas moi, tous les fichiers log qui se trouvent à cet endroit-là. Et je te disais tout à l'heure, il y a des petits outils qu'on aime bien utiliser quand on fait de l'admin, quand on regarde des fichiers logs, on fouille dedans, on fait des greps, on fait des tails, des machins et tout. Et là, ça va bien marcher, comme on s'y attend depuis un shell bash. Par exemple, je vais pouvoir faire un less setup act.log pour le consulter.
Ça, je pense que tu dis admin, mais en fait, les développeurs sont très intéressés également pour voir les logs de leur application quand ils sont en train de débugger. Du coup, c'est tout à fait des commandes qu'ils utilisent assez régulièrement.
Tout à fait. Je vais pouvoir en faire un Vim ou un VI. Tiens, je crois que tu préfères VI.
Moi, je préfère VI, mais c'est historique.
Hein. Setup act.log. Donc, bon, éditer un fichier log, c'est un peu. C'est pas ce qu'on fait tous les jours, mais voilà. J'ai mon VI.
Donc, si tu as besoin d'autre chose, un Nano ou autre, je suppose que tu peux le télécharger, un Emacs.
Je crois même que Nano. Setup act.log est présent.
Parfait.
Par défaut.
Que demande le peuple,
là, on a. Tout ce qu'il faut là.
Alors, moi par contre, en tant qu'admin, il y a un truc qui m'intéresse là-dedans, parce qu'effectivement, la plupart des choses ici qui sont plus dev m'intéressent moins dans mon travail de jour le jour. Par contre, il y a une chose qui peut m'intéresser, j'espère qu'elle est présente, c'est SSH. Est-ce qu'on a un client SSH qui est disponible dans ce sous-système pour Linux?
Oui, tout à fait. Donc tu vas me permettre de faire un petit copier-coller pour le nom de mon serveur cible. Donc SSH, effectivement, le SSH de OpenSSH est présent. Et si je veux accéder à mon Linux qui est dans Azure, j'ai qu'à faire simplement SSH mon nom at le serveur, enfin comme on fait classiquement, hein, et je vais me connecter.
Donc mot de passe ou clé SSH, en l'occurrence ici tu as pris un mot de passe.
Exactement. Si j'avais une clé SSH, je l'aurais mis dans le répertoire qui est .ssh.
Exactement. Eh bien, écoute Pascal, ça termine avec brio cette petite introduction au sous-système Linux.
Un petit mot sur les performances?
Ah oui, alors on était très, très heureux de lire récemment, c'est la presse française qui l'a noté, mais c'était fait par des Américains, qu'il y a des gens qui ont fait des benches sur est-ce que c'est performant ou pas ce sous-système, et donc en gros ils ont comparé deux machines virtuelles, une avec Windows 10 et le sous-système Ubuntu pour Linux, enfin sous-système Linux pour Windows basé sur Ubuntu, et puis ils ont pris une vraie Ubuntu à côté, et ils ont comparé. Et ce qui est assez intéressant, enfin, reprends le haut de l'article, parce que c'est vraiment le haut de l'article qui est intéressant. Tout en haut, encore le titre, en fait. Hein. Il écrit « Cartonne en performance, le sous-système Linux de Win ». Et en fait, sur la partie CPU et mémoire, eh ben, les résultats sont excellents, voire même meilleurs que sur Linux natif, ce qui est super étonnant. Mais après, c'est la gestion, effectivement, de, je pense, microkernel versus monolithique également, et puis le sous-système qui a été très, très bien travaillé, à mon avis, par Canonical en collaboration avec nos équipes. Si on lit l'article dans le détail, je pense que tu mettras le lien avec la vidéo. Par contre, actuellement, mais là parce qu'on est sur une bêta, les sous-performances disques sont un peu moins bonnes. Donc ils disent que pour tout ce qui est traitement de calcul avec du CPU ou utilisant la RAM, les performances sont magnifiques. Et qu'aujourd'hui, sur le disque, elles sont un peu en deçà par rapport effectivement à l'équivalent sous un Linux. Là encore, on est sur une version bêta,
voilà.
Non finalisée, c'est pour des usages particuliers également. Donc ça devrait évoluer, mais ça veut dire que dès le départ sur une bêta, en fait, on a déjà des choses qui sont très très bonnes. Et donc on n'est pas plus fier, en fait, du coup, d'avoir ce sous-système Linux dans Windows. dès la version Insider aujourd'hui et prochainement nativement présente, si je ne dis pas de bêtises, dans la version, la mise à jour anniversaire de Windows 10 qui arrivera cet
oui,
été.
Oui, tout à fait, oui, l'été 2017, oui, tout à fait.
Voilà, là, ce et sera en standard.
C'est vraiment du Windows 10, hein, on ne parle pas de Windows Server, c'est du Windows 10. Par contre, sur Windows Server, on aura autre chose qui sera un petit peu intéressant de façon connexe, c'est le serveur SSH, donc peut-être qu'on aura des scénarios intéressants autour de ça.
Bien, merci Pascal pour cette introduction sur le sous-système Linux dans Windows. Merci à tous d'être venus et on se retrouve prochainement dans d'autres concrètement.